la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la souscription pour le rétablissement de la statue à l'identique dans les jardins de la Fontaine de Bernard Lazare. Et pour nous en parler, nous avons deux invités. David Sorper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du collectif Histoire et Mémoire, à l'initiative en fait de cette souscription. Et vous avez demandé l'appui de Jean-Christophe Muller. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Pasteur à la retraite et président de l'association à la mémoire de Frédéric Desmonts. Et vous allez nous expliquer qui est Frédéric Desmonts, les liens avec Bernard Lazare. Ils sont de la même génération, ils ont les mêmes objectifs. Et si on les connaît pour être les défenseurs du capitaine Dreyfus, il y a beaucoup d'autres choses à évoquer. Alors David, on va commencer peut-être par ce collectif Histoire et Mémoire, dont vous êtes le jeune président. Quel est son objectif ? Histoire et mémoire.
Transmettre l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de la mémoire de la Shoah dans le département du Gard et en France.
Oui, en France. Ça existe depuis longtemps, ce collectif ?
Oui, maintenant, plus de 10 ans, puisque en 2013, l'association 2013. A été créée en appui au projet de mettre une plaque aux enfants juifs déportés en gare de Nîmes.
Oui, je me souviens, on était présents et on avait fait un article dans le journal Le CEP. Et on y va, quand on monte l'escalier roulant, on ne peut que voir cette plaque. Bernard Lazare, je vous ai posé la question, est-il très connu des Nîmois ? Et vous m'avez répondu non. Donc c'est l'occasion ou jamais de faire connaître Bernard Lazare.
Bernard Lazare est plus connu des Parisiens que des Nîmois. Mais Bernard Lazare est un grand homme. Bernard Lazare, c'est le premier journaliste qui a été à l'initiative de prendre la défense d'un innocent, le capitaine Dreyfus.
Avant Zola.
Oh, bien avant.
Ah. Voilà. Oui, parce qu'on assimile toujours à Zola, alors que c'est Bernard Lazare le premier.
Oui, effectivement, il a fait un combat mémorable, exceptionnel, pour convaincre ses pairs de l'innocence du capitaine Dreyfus, et en particulier du manque de preuves pour le faire comparaître comme un coupable.
Alors est-ce que, Jean-Christophe, c'est le parallèle avec Frédéric Desmonts ? Est-ce que c'est à partir justement de l'affaire Dreyfus ou d'autres éléments ?
Non, l'affaire Dreyfus, c'est le fait qu'il soit gardois. Mais j'allais dire, Dreyfus est ancien pasteur et à l'époque sénateur et surtout... le plus grand responsable du Grand Orient de France dans cette période où la République se construit. Sauf que ce n'est pas les cercles que fréquente Bernard Lazare, qui est plutôt un anarchiste quand même, et un journaliste plutôt qu'un homme politique. Il faut quand même dire qu'il y a une injustice à l'égard de Bernard Lazare. Tout le monde parle du J'accuse de Zola.
De Zola, oui.
Qui l'a payé cher d'ailleurs. Sauf que, édité en Belgique, il y a eu l'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire qui paraît à l'été 95, c'est-à-dire 6 mois après la condamnation dans la cour des Invalides de Dreyfus. Et la famille n'est pas trop d'accord parce que. Là, il accuse des gens, c'est en fait les éléments qu'il fournira à Zola et que Zola reprendra. Donc le J'accuse est déjà écrit 3 ans avant.
Il s'est fait voler en fait le terme.
Non, mais Dreyfus, Bernard Lazare a écrit une erreur judiciaire en novembre 96, donc un peu plus d'un an après, avant le J'accuse de Zola, où là... il faisait une simple démonstration des faits, ce qui correspondait plus au souhait de Mathieu Dreyfus, le frère, qui était venu lui en parler. Donc, voilà, l'injustice à l'égard de Bernard Lazare, c'est qu'on a tout accordé à Zola, mais c'est quand même Bernard Lazare qui a donné les éléments.
Oui, d'ailleurs,
Et puis, lui s'est engagé au moment où beaucoup... disaient que c'était une histoire privée, que ça ne les concernait pas. Les Jaurès, Clémenceau, Péguy ne viendront que plus tard, convaincus par Lucien R., un autre anonyme caché à la bibliothèque de l'École normale supérieure.
Mais... C'est pour ça que vous mettez dans le flyer « Faites un don ». Bernard Lazare, premier défenseur du capitaine Dreyfus, voilà, rétablissez la vérité.
Premier, vous voyez, on rétablit la vérité aussi sur un monument.
Ben oui, j'allais dire, ce monument, il a été érigé quand ?
Il n'a pas été oublié, en particulier de ses pairs de l'époque, puisqu'ils ont souhaité qu'un monument soit reconstruit, et en particulier le premier d'entre eux, Jules Adler, qui est un artiste peintre très connu du début du XXe siècle dans l'histoire de artistique du judaïsme français. Et ce Jules Adler, il décide de vouloir faire un monument à Bernard Lazare. Alors, ce monument, finalement, s'intègre dans une triade de trois grands auteurs, nîmois, qui représentent une fraternité, puisque Antoine Bigot, Jean Reboul et Bernard Lazare,
une trilogie.
Une trilogie très intéressante dans une ville... où le personnel politique de l'époque se bat dur comme fer pour défendre le principe de laïcité, parce que la laïcité, c'est une notion, contemporaine et même très récente, et qu'il a fallu se battre pour l'avoir.
Alors c'est vrai qu'il y a une rue Antoine Bigot, il y a une rue Jean Reboul, je ne crois pas qu'il y ait une rue Bernard Lazare.
Il y a une rue Bernard Lazare.
Ah bon ? Elle est où ?
Elle est du côté du Jardin de la Fontaine, mais il y en a une.
Ah, il y en a une. Alors, la statue est construite, et pourquoi est-elle détruite ? Je vais un peu vite.
Alors, pour revenir sur les rues d'abord, il y a d'autres rues aussi. Moi, je pense au Kellar, qui a aussi donné la rue Bernard Lazare, qui existe toujours. Et Bernard Lazare a eu une place aussi à Paris. Donc, c'est un membre important au nom des rues qu'il a... dont porte le nom de Bernard Lazare, mais aussi ce grand monument. Votre question.
Quand est-ce qu'elle a été érigée, cette statue, et pourquoi a-t-elle et quand a-t-elle été détruite ?
Alors, elle a été érigée après sa mort, en 1908. Elle a été érigée et inaugurée par Frédéric Desmonts.
Voilà.
C'est là que le lien est super fort, puisque Frédéric Desmonts, sénateur du Gard, qui a une carrière politique très importante, avec un autre personnage très très influent, Gaston Doumergue, qui est quand même le président, originaire de Aigues-Vives, mais sur Nîmes, et là on va voir les JO en France, en 1924, c'est lui qui a inauguré les JO. Et donc on est très fiers de tous ces personnages, et c'est important de porter ce message, de transmettre l'histoire de nos monuments. On est très fiers des monuments nîmois, gardois. Et voilà.
Alors, est-ce que je suppose que vous avez le texte du discours prononcé par Frédéric Desmonts ? Non, même pas.
Non, c'est pas Frédéric Desmonts, je crois.
Les archives de Frédéric Desmonts, c'est une histoire compliquée.
Vous nous la résumez ?
Voilà. C'est en cours de travail, mais c'est... Voilà. L'importance du fait que Desmonts et Doumergue soient ceux qui président ou sont présents à l'inauguration de la statue en 1908 de Bernard Lazare, Georges-Eugène Lafontaine. C'est important parce que c'est deux générations d'hommes politiques gardois, des radicaux. J'allais dire, ça me semble symbolique parce que Bernard Lazare a été un journaliste à Paris. Eux, leur vie de parlementaire, ils la font à Paris. Ils reviennent de temps en temps dans le Gard, c'est des bains de foule. Mais leur vie, elle est à Paris à partir du moment où ils sont parlementaires. Frédéric Desmonts, c'est celui qui a représenté la France pour l'inauguration de la Statue de la Liberté en 1886. Donc, j'allais dire, de la Statue de la Liberté à celle de Bernard Lazare...
Il n'y a que quelques kilomètres.
On va se permettre une espèce de métaphore de la symbolique comme une exigence, comme un regard porté sur la société qu'on veut construire. le regard qu'on porte sur l'espérance humaine. Maintenant, la présence de Frédéric Desmond et de Gaston Doumergue pour l'inauguration de cette statue, si elle marque l'importance d'un engagement républicain, c'est aussi une façon de rattraper un retard. Que ce soit une partie des radicaux, tous n'ont pas eu l'emballement de Clémenceau qui fut rapide. Ils ont beaucoup hésité, et le Grand Orient aussi, parce qu'ils avaient peur de s'attaquer à l'armée, d'être mis en cause dans leur patriotisme. Pour les républicains, il y avait quand même encore le mythe de l'Alsace-Lorraine occupée par les Allemands, donc il ne fallait pas démoraliser l'armée. Donc au début, dans ce qu'on appelle quand même la résistance morale, celle que Bernard Lazare a attisée, c'est-à-dire il y a un scandale qui est celui du sort fait à un juif, et un scandale fait parce qu'il y a une accusation à un innocent. Voilà, c'est tout le principe républicain est là, quoi. Mais au départ, ça ne mobilise pas les grands politiques. Ils sont des poignées. Alors on trouvera quelques poignées de francs-maçons, quelques poignées de grands républicains, mais ce n'est pas les grands appareils.
Mais Dreyfus, c'est parce qu'il est juif qu'il est condamné, en fait.
Pas que. C'est aussi, c'est parce qu'il est juif, mais c'est aussi parce qu'il représente une conception moderne de l'armée. Là, on pourrait faire un petit clin d'œil au général de Gaulle quelques décennies plus tard, contre le clientélisme où on progressait dans l'armée, non pour ses compétences et les examens qu'on avait passés. Dreyfus, il avait passé les examens de l'école militaire, mais il était dans aucun réseau qui fournissait les prébandes. Ses compétences gênaient. Donc, la double réalité de moderniste comme conception de l'armée et comme juif a amené à ouvrir toutes les portes et après les grands silences de la grande muette.
Alors, l'antisémitisme, bon, on sait combien il a progressé jusqu'à l'anéantissement, le génocide de la Shoah. Donc, la destruction du monument de Bernard Lazare, il est lié à ce contexte de la Seconde Guerre mondiale ou c'est avant ?
Dès l'inauguration, Maurras demande à ses troupes de vandaliser le monument. Et selon certains, le 14 juillet d'après,
dès 1909,
son nez est coupé et donné en presse-papier à Charles Maurras. Pendant l'occupation, on ne sait pas bien dater ce document, mais on a un document qui est aujourd'hui au carré d'art que j'ai eu accès, qui présente la statue avec écrit « mort aux Juifs ». Et on a un exemplaire d'une photo prise par quelqu'un qui vient de l'Europe de l'Est, puisque c'est écrit en yiddish. Mais on a une photo de la démolition du monument, qui sera, selon la fiche du ministère de la Culture, placée au musée du Vieux-Nîmes, détruit clandestinement. Et après-guerre, on le retrouve dans les pierres qui ont permis de construire le monument aux morts, aux martyrs de la résistance. Donc, c'est très intéressant au niveau historique, parce qu'on a d'un côté tout ce lien entre l'antisémitisme et les appels à l'antisémitisme de l'extrême droite française, et ensuite la reconstruction et peut-être l'oubli aussi des sévices faits aux personnes de confession juive en France.
Alors, vous avez amené une grande photo du monument. Et vous avez bien précisé en introduction que c'est une reconstruction à l'identique.
Effectivement. Nous sommes une association d'histoire et de mémoire. Et nous avons décidé de respecter l'histoire. L'histoire aussi des sculpteurs, Hippolyte Lefebvre, Paul Roger, Bloch, et de l'architecte Raphaël Max, qui a construit bon nombre de nos belles rues et monuments à Nîmes. Voilà. Et on a pu même on est parvenu à joindre le descendant de Paul-Roger Bloch, qui n'est autre que Patrick Bloch à la mairie de Paris. Voilà.
Alors, nous allons continuer sur cette reconstruction à l'identique. On va commenter, et je vais demander à tous les deux votre ressenti devant cette photo-là de ce monument, 6 mètres de haut, hein, c'est pas un petit monument. Mais avant, on va écouter la chanson écrite et chantée par Yves Duteil, Dreyfus, qui est le petit-neveu de Dreyfus.
Et qui est au comité de soutien pour la reconstruction du monument à Bernard Lazare à Nîmes.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour, je reviens.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons David Storper et Jean-Christophe Muller pour nous parler donc de la reconstruction, de la souscription pour le rétablissement de la statue de Bernard Lazare dans les jardins de La Fontaine. Alors, bien sûr, vous pouvez faire des dons. Alors, il y a plusieurs méthodes. Envoyer un chèque au collectif Histoire et Mémoire. Envoyez un chèque à Collectif Histoire et Mémoire, 10 rue des Amoureux, 30 000 Nîmes. Il y a sinon Eloasso, Collectif Histoire et Mémoire.
Sur Internet.
Sur Internet. Un reçu CERFA vous sera délivré donc par l'association. Donc n'hésitez pas à aider à la souscription. Alors je reviens à ce monument. Quels sont à tous les deux votre ressenti face à ce monument, qui est un monument très daté de son époque? Alors Jean-Christophe.
Oui, ben. Il y a le personnage dans une pierre il semble émerger d'une pierre comme si elle était presque naturelle. Et puis, sous le personnage, il y a une image de la République, de la liberté, tenant un flambeau. C'est pourquoi le lien avec la statue de la liberté n'est pas un hasard, mais d'une certaine manière, c'est l'idée qu'il y a une flamme, que la liberté, que la République, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur, qui met en avant ce qui éclaire, ce qui donne de la lumière à notre humanité.
C'est important donc de la rétablir à l'identique.
Oui, oui, et donner de la lumière dans une France qui peut sombrer aussi dans l'obscurité. Voilà, et moi je pense que c'est la force de cette flamme, flamme qu'on retrouve à New York avec la statue de la liberté. Et Bernard Lazare, en fait, n'est qu'une partie, mais une partie importante de cet édifice, puisqu'il se situe en hauteur. Et voilà, et en termes de sculpture, c'est très intéressant. J'étais avec le sculpteur, donc c'est un cabinet de sculpture de Villeneuve-les-Avignon. Le drapage de la liberté de cette Marianne qui prend trois quarts de l'édifice, et ben, c'est tout un travail, et un travail de minutie. Et on aura besoin de minutie pour reconstruire ce beau monument.
Alors, un prix, ça coûte 226 000 euros.
Le projet, en globalité, coûte 226 000 euros.
Alors, vous avez voulu... Enfin, l'idée a germé depuis longtemps, mais vous aimeriez, en fait, c'est une date que vous vous êtes donnée, que le 14 juin 2025, le monument soit à nouveau en place. Alors, pourquoi le 14 juin 2025 ?
Alors, 2025, 14 juin, Bernard Lazare, il est né à Nîmes le 14 juin.
Oui.
1865 et donc ça fera le 160e anniversaire, donc c'est un chiffre rond mais pour une belle cause. Et aujourd'hui Nîmes est désormais à l'UNESCO, inscrit à l'UNESCO, et c'est dans la conservation, c'est dans la préservation de notre patrimoine commun et républicain.
C'est motivant. Alors vous avez lancé la souscription le 18 mai 2024. Ça marche, hein. Il y a déjà pas mal de
souscripteurs. On avance tous les jours.
Il faut le faire assez vite, hein, parce que pour lancer le projet. Et vous, en tant que président de l'association de la mémoire de Frédéric Desmonts, comment vous vous associez à ce projet ?
Alors, dès qu'on a entendu parler de ce projet, on a tout de suite réagi. Alors moi, à titre personnel, parce que... j'ai une planche à pain chez moi qui a été offerte pour le mariage de ma grand-mère maternelle en 1920 par le capitaine Dreyfus. Enfin, il avait monté en grade entre-temps et son épouse. Parce que mon arrière-grand-père est un des chartistes qui avait reconnu que ce n'était pas l'écriture de Dreyfus sur le bordereau.
Et il a fallu des années pour le prouver.
Il a été en témoigné au procès de Rennes et il est mort 2 mois après le procès de Rennes, alors que ma grand-mère n'avait qu'un an et demi. Donc, ma grand-mère a été élevée par sa mère dans le culte
de Dreyfus,
de la justice et de la liberté. Et on se repasse la planche à pain. Ça devient compliqué avec les héritages. Donc ça, c'est...
Vous coupez la planche à pain en petits morceaux. Non.
Ensuite, pour l'association Frédéric Desmonts, c'était évident. C'était évident, d'abord parce que l'affaire Dreyfus est ce qui a permis à la République de s'installer et de l'emporter. Ça a été un électrochoc. Ensuite, un certain nombre de principes républicains, dans la laïcité, mais aussi dans l'attention portée aux minorités, ont traité les juifs, les protestants aussi, d'anti-France. Or, notre République s'est ancrée dans cette espèce de réalité forte. Et notre région a une histoire là-dessus. Une histoire de la liberté, une histoire de la liberté de conscience. Donc, ça nous paraissait évident. Qu'il fallait apporter notre soutien au projet du collectif Histoire et Mémoire.
Alors, dans le contexte actuel, hein, on parle en permanence de la multiplication des actes antisémites en France, hein, depuis un certain temps. Est-ce que ce geste de reconstruire, de rétablir la statue de Bernard Lazare peut être considéré comme une provocation par certains ou au contraire, pour vous, c'est une valorisation de ces valeurs dont vous nous parlez depuis le début. Et vous avez parlé d'électrochoc. Est-ce que ça peut servir aussi d'électrochoc pour dire l'antisémitisme, il est toujours là, prêt à se développer?
Moi, je pense que c'est un retour aux sources, aux sources de notre combat pour la République. Parce que c'est important de faire commun quand certains veulent faire isolé. Aujourd'hui, on est en France, on marche contre, par exemple, l'antisémitisme, on marche contre la xénophobie. Et reconstruire ce monument, 80 ans après la fin de la guerre, 80 ans après la destruction de ce...
C'est une mise en garde aussi, un symbole.
Non, pas une mise en garde, mais en tout cas, aujourd'hui, on est en paix, on est en République. Alors, reconstruisons nos monuments républicains. La reconstruction n'est pas terminée. Bernard Lazare, on doit le reconstruire. Et Nîmes a à être fier de Bernard Lazare, pas l'inverse.
Bien écoutez, j'espère que cette émission va mieux faire connaître Bernard Lazare au Nîmois, que vous allez avoir beaucoup de souscripteurs. Et nous sommes impatients de voir le monument une fois rétabli dans les jardins de La Fontaine. Merci à tous les deux.